suis très heureux d'être là aux côtés de Pascal Cossard pour vous présenter et la laisser présenter son ouvrage. Bon, je connais Pascal depuis très très longtemps, quand j'étais parisien. En fait, Pascal a une trajectoire universitaire avec beaucoup d'étapes. Elle est partie de Lille, ensuite elle est allée aux États-Unis pour faire un master avant de revenir en France. Et elle a fait une thèse à l'Institut Pasteur. Mmh. Enfin, c'est une thèse Pasteur, Université de Paris. Mais... Ouais. Et depuis, en fait, elle ne s'est tellement plus à l'Institut Pasteur qu'elle est toujours restée à l'Institut Pasteur pour son postdoc. Et maintenant, elle occupe des fonctions éminentes dans cet institut prestigieux qui est connu dans le monde entier. Donc, elle a une charge d'enseignement, elle anime une équipe de recherche. Et tu présides le conseil scientifique aussi de Pasteur.
Non, c'est fini.
C'est fini. Ah zut.
Bon, elle a présidé. Plus que petit membre.
Elle a présidé. Donc, elle a une activité qui lui a donné une notoriété internationale autour des bactéries, et plus particulièrement d'une bactérie qui s'appelle Listeria, dont elle parlera peut-être pendant sa présentation. Elle s'est vue décerner de très nombreux prix. Elle est membre d'un certain nombre d'académies, dont évidemment l'Académie des sciences française, et aussi membre de l'Académie allemande et anglaise.
Américaine.
Américaine. D'autres ? Non, ça s'arrête là. Bon, donc on va...
Et secrétaire perpétuel de l'Académie.
Secrétaire perpétuel de l'Académie. Voilà. Donc la liste est tellement longue que j'en oublie. Donc, on va la laisser vous présenter son ouvrage qui s'appelle « La nouvelle microbiologie ». Alors, « La nouvelle microbiologie », dans le préambule, tu expliques que c'est le titre qui avait été donné à une réunion organisée conjointement par les académies françaises, allemandes et anglaises en 2012, quelque chose comme ça. Mmh. Mais peut-être que, par contre, le sous-titre est moins évident. Donc, on reviendra sur la signification des deux mots qui sont associés dans le sous-titre, microbiote et CRISPR. Mmh. Mais pourquoi avoir fait un focus dans le sous-titre sur ces aspects-là ? Parce qu'il y a des tas d'aspects qui sont... expliqué, présenté, détaillé dans l'ouvrage. Pourquoi avoir fait un focus sur ces deux thèmes-là ?
Alors, bon, d'abord, je vais vous remercier d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. J'adore parler des bactéries. J'adore parler de ce que je fais, de ce que j'ai écrit. Pourquoi un sous-titre ? Eh bien, parce que j'ai une éditrice qui s'appelle Odile Jacob et on essayait de trouver un titre qui soit attrayant. Moi, je voulais beaucoup qu'il y ait le titre « Nouvelle microbiologie » dans le titre, parce que je pense qu'il y a une telle renaissance, une telle révolution dans ce domaine qu'il fallait que ce soit là. Ceci dit, j'ai par exemple des filles qui m'ont dit, mes filles qui m'ont dit que le titre est nul, mais je suis convaincue que c'est important de montrer aux gens qu'il y a des disciplines qui ont des allures de croisière et puis qui tout d'un coup explosent. Et là, c'est le cas. Quand je suis arrivée à l'Institut Pasteur, hein, en 71, c'était une période où il y avait eu des prix Nobel 5-6 ans avant. Et les gens qui avaient eu les prix Nobel sur les bactéries commençaient à s'intéresser aux souris, à dire non, on ne va plus s'occuper de bactéries et tout ça. Et puis, ceux qui continuaient sur les bactéries étaient un peu, bon, bah, peut-être des has-beens, je ne sais pas. Et puis là, maintenant, c'est incroyable. C'est que tout le monde a envie de travailler sur les bactéries et sur tous les sujets que j'aborde là. Donc, on peut peut-être parler du microbiote tout de suite, si tu veux. On y reviendra. Mais en tout cas, le mot microbiote, c'est très simple. Ça veut dire une flore. Quand on parle de la flore intestinale, c'est exactement pareil que parler du microbiote intestinal. C'est un nouveau mot qui a été utilisé. C'est exactement pareil. C'est plus chic, c'est tout. Donc, quand on parle de microbiote de la peau, c'est la flore qui est sur la peau. On a des assemblées de bactéries qui sont dans la cavité oro-buccale, comme on dit, dans les cheveux. Il y en a partout, mais il y a aussi des microbiotes dans l'environnement. Il y en a dans les tuyaux d'eau, il y en a dans les rochers, il y en a sur les plantes, il y en a partout, partout. Donc, je ne sais pas, tu voulais qu'on procède un petit peu en disant comment mon livre est construit. Je vais peut-être vous dire pourquoi j'ai écrit un livre. Pourquoi j'ai écrit un livre ? Bien parce qu'un jour, j'ai un coup de téléphone d'Odile Jacob qui me dit « J'aimerais vous rencontrer ». Très bien. entre le moment où j'ai accepté d'y aller et le moment où je l'ai vu, je me suis dit, c'est quand même pas pour parler de la pluie et du beau temps, c'est sans doute pour écrire un livre. Et comme j'avais toujours rêvé d'écrire un livre, je me suis dit, c'est venu tout seul. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut écrire. Toutes les grandes découvertes qui ont été faites depuis une vingtaine d'années, depuis cette période où il y a eu un peu une période de stagnation, on va dire, dans la discipline et tout ce qui a été découvert. Alors, j'ai un livre qui est en quatre parties. Donc, il y a une première partie qui correspond à des découvertes fondamentales. Une deuxième partie qui s'appelle la socio-microbiologie. Je vais vous en parler. Une quatrième partie qui est sur les bactéries responsables de maladies et tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Et une dernière partie qui correspond aux outils qui dérivent de nos connaissances sur les bactéries et puis des outils qui sont des bactéries elles-mêmes. Donc si tu es d'accord, je vais peut-être vous parler de ces quatre parties.
D'accord.
Voilà. Alors, la première partie, c'est sur vraiment les découvertes fondamentales qu'on a faites sur les bactéries. Les bactéries, ce sont les plus petits organismes vivants, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre tout seuls. Le mot microbe, c'est un mot générique. Si vous voulez, quand vous parlez d'un microbe, ça veut dire quelque chose qui est petit. Micro, en grec, c'est petit. Donc, un microbe, c'est petit. Ça peut être, je ne vais pas dire une petite souris, mais un petit virus, un petit parasite, un petit protiste, un petit ver et tout ça. Un microbe, c'est ça, une amibe. Les bactéries, ce sont des bactéries. Ça veut dire que c'est une seule cellule. Vous voyez, là, ici, il y a plusieurs bactéries. Donc, c'est un seul organisme vivant, une seule cellule qui peut vivre soit sur une feuille, qui peut vivre sur la peau, qui peut vivre tout seul. Et si je compare avec un virus, il ne peut pas vivre tout seul. Un virus, il a besoin d'aller dans une cellule, il a besoin d'infecter votre gorge, votre peau, etc. La bactérie, c'est vraiment le plus petit organisme vivant sur Terre. Vous me suivez? Parce que ça, toute la conférence est là-dessus. Hein. Donc, une bactérie, elle se divise en donnant deux bactéries. C'est ce qu'on appelle une division qui est binaire. D'accord ? Une bactérie, elle s'allonge, elle se divise, ça fait deux bactéries qui sont identiques à leur mère. Pratiquement toutes les bactéries sont comme ça. Et puis, elles peuvent vivre dans différents environnements. Et dans ce livre, je parle des bactéries dans le premier chapitre en disant « Les bactéries ne sont pas des petits sacs ». Ce n'est pas des petits sacs où tout à l'intérieur, tout est mélangé. C'est très, très, très organisé. Quand vous voyez un homme, quand vous voyez une femme, vous dites que c'est quelque chose de très organisé. Il y a une tête, il y a des bras, etc. Avant, les gens pensaient que les bactéries, c'était comme un petit sac. Ce n'est pas vrai du tout. Les bactéries, elles ont par exemple une petite queue, un petit flagelle qui leur permet de nager. Elles ont, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont vraiment toute une organisation. Alors, la grosse différence aussi avec vous, vous avez un corps qui est fait de cellules qui sont toutes différentes. Les bactéries, comme je vous dis, c'est des familles. Alors, une famille va être comme ci, une famille va être un peu différente. Donc, les bactéries, oui, elles sont organisées comme ça. Et elles ont des propriétés qui sont particulières à chaque bactérie.
Et elles sont unicellulaires.
Et elles sont, oui, unicellulaires, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule cellule. Oui, la grosse différence que je voulais dire, c'est que vous, dans vos cellules, il y a un noyau et il y a le reste de la cellule. Les bactéries, elles n'ont pas de noyau, mais elles ont quand même ce qu'on appelle un ADN, un génome. D'accord ? Le génome, vous allez dire, oh là là, ça y est, elle tombe dans les mots compliqués. Le génome, c'est la carte d'identité de la bactérie. C'est le truc qui est principal, c'est-à-dire c'est l'espèce de ruban qui est à l'intérieur de la bactérie et qui fait que quand la bactérie grandit, elle grandit en taille, ce ruban se dédouble, si vous voulez, il se dédouble. Et quand on aura deux bactéries, on aura deux bactéries de la même taille avec le ruban qui se sera dédoublé et qui sera un dans chaque bactérie. Vous comprenez ? C'est un petit peu ça, la vie d'une bactérie. Donc, la vie d'une bactérie, c'est... je ne vais pas dire que c'est un tout petit peu triste, mais quand même, elles sont comme les hommes, elles cherchent à se diviser, à se reproduire. Mais comme elles sont dans différents environnements, elles vont un tout petit peu s'adapter aux différents environnements. Donc le premier chapitre de ce livre vous explique un tout petit peu ce que c'est qu'une bactérie. Ce que je viens de vous dire est bien décrit en disant, Bon, ben voilà, on a une bactérie qui peut avoir des choses sur sa surface, des flagelles pour nager, des poils, des pilis pour s'accrocher quelque part, et puis elle se divise. L'autre chose aussi qui est très importante, les bactéries ne sont pas toutes responsables de maladies. En fait, il y en a très peu qui sont responsables de maladies. Les bactéries, ce sont vos amis. Et si vous n'avez plus de bactéries, bah vous êtes un tout petit peu comme un zombie. Vous avez besoin de vos bactéries. Hein. Moi, je suis venue de Paris avec toutes mes bactéries dans mon intestin. Et si je n'avais pas de bactéries dans mon intestin, je serais vraiment un organisme qui serait vraiment très affaibli, etc. Bon, alors voilà. Donc, le premier chapitre, c'est vraiment pour vous parler des bactéries. Ensuite, j'ai un chapitre qui parle de tout ce qu'il y a comme machinerie, c'est-à-dire ce que je viens de dire, le génome qui se dédouble, qui est copié en une molécule qui s'appelle l'ARN, ça c'est un petit peu compliqué. Et puis après, on a la fabrication des protéines qui sont toutes les choses qui sont à l'intérieur des bactéries. Alors ensuite, j'ai un chapitre sur les antibiotiques. Les antibiotiques, ce sont des produits qui peuvent être faits par des champignons. La première fois, le chapitre où je décris les antibiotiques, c'est un chapitre où je parle de la découverte des antibiotiques, l'arrivée des premières bactéries qui ont été résistantes aux antibiotiques, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour voir au fait qu'on a des bactéries qui sont résistantes. Alors, comment on a découvert les antibiotiques? Ça, je le raconte bien dans mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un monsieur qui était parti en vacances en laissant ses bactéries sur une boîte où il faisait pousser ses staphylocoques. En fait. Et puis, il est revenu de vacances et il s'est aperçu que en fait, ses cultures de bactéries étaient contaminées avec un gros champignon qui était là, qui n'aurait pas dû y être. Et autour du champignon, les bactéries ne poussaient pas. Et ce champignon, c'était un pénicillium. Et ce pénicillium fabriquait la pénicilline et qui faisait que ça tuait les bactéries qui étaient autour. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé la pénicilline. Donc ça, c'était quand? C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on a trouvé la pénicilline à ce moment-là. On a commencé à utiliser les antibiotiques. Et ça a été vraiment le remède miracle de trouver des antibiotiques. Donc on a guéri toutes les maladies avec des antibiotiques. Et puis en fait, vers les années 60, il y a des premières bactéries résistantes aux antibiotiques qui sont arrivées. Et elles sont arrivées comment, vous allez dire? Pourquoi tout d'un coup, il y a une bactérie qui devient résistante aux antibiotiques? Eh bien, elle devient résistante aux antibiotiques. Peut-être quand elle s'est divisée en deux. Je vous ai dit, on a cette espèce de ruban qui se dédouble. Peut-être qu'il y en a un qui s'est dédoublé et qui a fait une faute au moment où il y a eu cette division. Et donc, on a eu un mutant. Donc, on a une bactérie qui était mutante. Bon, ça, c'est possible. Mais en général, ce n'est pas ça qui se passe. Une bactérie devient résistante parce qu'elle a pris quelque chose de sa voisine. Par exemple, ce fameux ADN peut se promener, par exemple, dans votre intestin, et la bactérie attrape cet ADN et le prend pour elle. Et tout d'un coup, elle devient résistante aux antibiotiques. Et donc, comme on a toutes les bactéries qui sont là, il y a l'antibiotique qui flotte dans le milieu, et celle qui a pris un peu d'ADN et qui est capable de résister aux antibiotiques, eh bien, elle résiste, et c'est celle-là qui se multiplie, toutes les autres, elles sont tuées. Donc vous comprenez un tout petit peu comment, quand on a toute une population de bactéries, peut-être qu'elles peuvent être toutes tuées par l'antibiotique, sauf s'il y en a une qui a attrapé ce qu'on appelle un gène de résistance, et c'est celle-là qui va se multiplier.
Tu peux peut-être nous parler justement de la façon dont on peut essayer de réagir face à la multiplication des résistances des bactéries et donc de trouver des solutions pour traiter les maladies.
Oui, donc, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que l'histoire de l'arrivée des résistances aux antibiotiques, c'est dû au fait que, ben justement, on a mis les bactéries au contact d'antibiotiques. Et du coup, quand il y en avait une qui devenait résistante, c'est celle-là qui se multipliait de plus en plus. Mais, si tu me permets, je vais dire que quand même, il y a eu des antibiotiques qui ont été utilisés beaucoup trop souvent. Et du coup, bon, bah, on a eu beaucoup de résistances qui sont arrivées et qui ont été utilisées aussi pour les animaux. Et on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qu'on peut donner des antibiotiques aux animaux, par exemple aux vaches, aux moutons, etc. On les donne à une concentration qui est très faible, mais on s'est rendu compte que ça les faisait grossir plus vite. Et donc, il y a eu beaucoup d'antibiotiques qui ont été donnés aux animaux et qui ont fait que finalement, on avait des bactéries qui étaient devenues résistantes, par exemple, dans l'intestin des vaches, dans l'intestin des poulets, ou, etc. Et ça éventuellement s'est passé chez l'homme. Donc, en Europe, on a interdit complètement de donner des antibiotiques aux animaux à des fins de production rapide de vaches qui avaient beaucoup de viande, etc. Bon. Aux États-Unis, c'était encore autorisé. Et là, maintenant, ça va être plus autorisé à partir du mois de janvier. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui trichent et qui disent qu'ils sont en train de traiter leurs vaches contre telle infection ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, on pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des antibiotiques et qui ne devraient pas les utiliser. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à trouver des nouveaux antibiotiques, c'est-à-dire d'essayer de voir, par exemple, si on fait pousser des bactéries dans différents milieux, si on réussit à avoir dans le surnageant, dans le bouillon de culture, si on trouve des petites molécules qui pourraient tuer d'autres bactéries. On essaie d'en trouver.
Et il y en a qui ont été trouvées.
Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on fait pousser les bactéries, on utilise du milieu de culture. Vous savez, on les met dans des milieux liquides et tout ça. Et quelquefois, il y a des bactéries qui ne poussent pas. Donc maintenant, on a quand même des moyens de faire pousser des bactéries qu'on ne savait pas faire pousser avant. Je pense qu'on va trouver de nouveaux antibiotiques. Donc il faut diminuer la consommation d'antibiotiques. Et puis, il faut qu'il y ait des chercheurs comme nous qui essayons de trouver des nouveaux antibiotiques pour tuer ces bactéries.
Alors, tu cites dans ton ouvrage un antibiotique qui a été trouvé récemment à partir d'Eleftheria terrae.
Oui.
Et tu as l'air de dire qu'on a criblé toutes les bactéries qui, aujourd'hui, sont identifiées. Est-ce qu'il y a d'autres bactéries qu'on peut aller chercher éventuellement dans des milieux divers et variés, exotiques, extrêmes ?
En fait, je vais vous dire, il y a des bactéries, je vous ai dit, il y en a partout. Il y a un mot que je n'ai pas prononcé, c'est dans le sol. Dans le sol, il y a énormément de bactéries. Et en fait, l'histoire à laquelle Jean-Jacques Toulmont fait allusion, c'est qu'en fait, on a pris du sol et puis on a essayé de voir s'il y avait des bactéries qui étaient capables de pousser et de produire des composés qui allaient inhiber la multiplication de bactéries qu'on était en train de tester. Donc, en fait, c'est des bactéries du sol qui ont été testées. Donc, on trouve des nouveaux antibiotiques. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on va pouvoir en trouver. Voilà.
Oui, mais une chose que moi, je ne savais pas à quel endroit ça s'en était rendu, c'est l'utilisation de virus pour tuer les bactéries.
Voilà. Alors, donc, tout à l'heure, maintenant, vous savez tout ce que c'est qu'une bactérie. On est d'accord ? C'est un organisme vivant. C'est une cellule unique, unicellulaire, c'est-à-dire il y a une seule cellule qui se divise. La durée de vie d'une bactérie, les colibacilles que vous avez dans votre intestin, il y en a beaucoup qui sont très gentils, il y en a quelquefois qui vous donnent des coliques, qui vous donnent des diarrhées. Ça se multiplie en général à peu près entre 20 et une demi-heure. Voilà. Donc, vous pouvez réaliser que si vous avez une bactérie, une demi-heure après, il y en a deux, puis vous calculez. Hein, ça va très vite, hein, ça pousse assez vite. Mais vous avez des bactéries comme par exemple la lèpre ou par exemple la bactérie responsable de la tuberculose. Ça, ce sont des bactéries qui poussent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc là, on passe à des temps de division qui vont chercher dans une journée ou quelque chose comme ça. Donc, c'est beaucoup plus long. Donc, ça varie, parce que le nombre de bactéries qui existent sur la Terre, c'est énorme. Il y en a de toutes les sortes, j'allais pas dire de toutes les couleurs, mais quand même. Il y en a vraiment de différentes formes. Donc, ce que Jean-Jacques me posait comme question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des virus de bactéries pour tuer les bactéries ? Et en fait, oui. Alors, donc, les bactéries, ce sont des cellules uniques, d'accord ? Mais elles sont comme nous. Il y a des virus qui sont capables de les attaquer. Alors, ces virus, ce ne sont pas des bactéries. Ce sont des virus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre tout seuls, mais ils peuvent vivre dans une bactérie. Soit ils vivent dedans, ils s'intègrent dans la bactérie, soit ils viennent sur une bactérie, ils se multiplient beaucoup et ils font éclater la bactérie. Et donc, on peut utiliser des virus pour tuer des bactéries. Alors, ces virus, on les appelle des bactériophages. D'accord ? Ils mangent les bactéries, bactériophages. Et la technique qui est proposée, c'est la phagothérapie. Avec des bactériophages, on va tuer des bactéries. Alors vous allez dire, est-ce que c'est un rêve de chercheur un peu illuminé ou est-ce que c'est utilisé ? Eh bien, c'est utilisé. Alors, c'est utilisé et il y a des gens qui sont très intéressés à l'utiliser de plus en plus. Mais pourquoi c'est pas plus utilisé ? Eh bien, parce que les virus, ce sont donc des organismes, je n'utilise pas le mot microbe, hein. Les virus, ce sont des organismes qui sont très spécifiques. C'est-à-dire, vous allez avoir un virus qui va bien aimer aller sur un staphylocoque doré, mais qui n'ira pas sur un streptocoque. Donc, il vous faut le virus qui va sur précisément la bactérie que vous allez vouloir combattre. Donc, il vous faut une batterie de virus pour combattre une batterie de bactéries. Alors, est-ce qu'on les a, ces bibliothèques de phages ? Eh bien, il en existe, j'en parle dans mon livre. Voilà, il en existe. En Europe de l'Est, c'était des technologies qui étaient utilisées. Parce que finalement, c'est, dans la nature, c'est ce qui se passe. Vous avez des virus qui attaquent les bactéries, etc. Donc, voilà. Donc, alors, vous allez dire, qu'est-ce que j'en pense ? Moi, ce que j'en pense, c'est que je suis prête à prendre des virus si c'est à l'extérieur. Et d'ailleurs, à l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un gros bobo sur la peau. Hein, vous voyez, vous avez quelque chose qui ne se guérit pas, on met de la pommade, un antibiotique, ça ne marche pas, etc. Et vous mettez le virus et ça marche. Et je connais des gens qui l'ont utilisé et ça marche. Et donc, si jamais un jour vous entendez parler d'une technologie comme ça, ou vous avez quelque chose qui ne se guérit pas, pensez à cette phagothérapie. C'est une technologie qui, à l'heure actuelle, n'est pas autorisée. Ce n'est pas commercialisé, ce n'est pas autorisé. Donc, il faut trouver des circuits un tout petit peu parallèles pour essayer d'avoir. Mais c'est pas encore. Mais il y a vraiment des espoirs de pouvoir guérir. On va passer au deuxième, la deuxième grande partie, parce que je pense qu'elle est très importante. La deuxième grande partie, c'est justement ce que j'appelle la sociomicrobiologie. Donc, les bactéries, en fait, elles vivent jamais toutes seules. Elles vivent en couple. Je ne sais pas si c'est en couple. Elles vivent plutôt en bande ou elles vivent en grande société. Donc, une des grandes sociétés que j'ai déjà mentionnées, c'est l'intestin. Une autre grande société, c'est dans la gorge, dans le nez, sur les cheveux, dans les tuyaux, sur les dents. Il y en a partout, dans la terre, etc. Alors, ces sociétés, est-ce qu'elles sont organisées ou est-ce que c'est le grand chaos ? En fait, par moment, elles s'organisent. Et vous avez des bactéries qui, par exemple, vont se multiplier et former ce qu'on appelle un biofilm. Donc, elles vont former un biofilm, c'est-à-dire que vous avez des bactéries qui vont se diviser et puis tout d'un coup, elles vont cracher des choses qui vont faire, ça va former une petite coque. Et à l'intérieur de cette petite coque, qu'on appelle un biofilm, les bactéries vont se retrouver protégées de l'environnement, éventuellement protégées des antibiotiques. Et en fait, elles forment des petites sociétés qui sont bien protégées. Alors vous allez dire, mais bon, pourquoi vous nous racontez ça ? Bien, si je vous racontais que quand vous avez par exemple un cathéter qui fait une perfusion, et que dans le cathéter, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir une bactérie qui va adhérer dans ce petit tuyau. Et puis, la bactérie va grandir et tout d'un coup, elle va faire un petit biofilm. Ben, c'est très embêtant parce que, éventuellement, ce biofilm peut se désintégrer et puis tout d'un coup, arriver dans l'organisme auquel vous êtes en train de faire une perfusion. Et là, vous avez une septicémie qui peut s'installer, etc. Donc, les biofilms, c'est embêtant. Par exemple, je vais vous parler d'une autre bactérie qui est la bactérie sur laquelle je travaille, s'appelle Listeria. Donc, Listeria, c'est une bactérie qui est dans le sol, qui peut contaminer les aliments. Elle peut contaminer les charcuteries, les produits laitiers, etc. Bon, bah on s'aperçoit que Listeria peut faire des biofilms, par exemple, dans des grands conteneurs de lait. Donc, ça va faire des biofilms qui vont rester dans le grand conteneur. Bon, vous apercevez qu'il y a des Listeria, vous dites, je nettoie mon conteneur, Mais en fait, le biofilm, il est très, très bien attaché sur le container et il va rester. Donc, on continue à, à mettre du lait là-dedans. Le lait n'est pas contaminé et tout ça. Puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, le biofilm se désagrège, le lait devient contaminé. Et à nouveau, on a une contamination par listeria, etc. Donc, le problème des biofilms, c'est vraiment un problème éventuellement de persistance de quelque chose. Vous pensez que vous êtes débarrassé d'une bactérie et puis finalement, elle reste là. Est-ce qu'on peut tuer les bactéries? Bon, vous savez très bien que vous pouvez tuer les bactéries. Hein. Vous les mettez à très haute température, vous faites bouillir, les bactéries, elles sont tuées. 100 degrés, elles sont toutes tuées. 60 degrés, elles ne sont pas toutes tuées. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Mais il y a une façon que les bactéries ont de pouvoir persister, de pouvoir lutter contre des choses qui seraient des grands stress, c'est de faire des spores. Et ça, en fait, c'est la couverture de mon livre. Vous voyez les bactéries rouges et à l'intérieur, il y a un petit truc vert. En fait, si vous avez un stress, par exemple, vous avez une bactérie qui, tout d'un coup, il n'y a plus rien à manger. Eh bien, la bactérie, elle va faire, au lieu de se diviser en deux, elle va, à l'intérieur d'elle-même, elle va produire ce qu'on appelle une spore. Et la spore, c'est un peu comme une graine, si vous voulez. Le reste de la bactérie va disparaître. Et puis, il y a la spore qui va être là. Et la spore peut rester comme ça pendant... C'est un peu comme une graine. Alors, vous allez me dire, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, il peut y avoir des spores de certaines bactéries. Par exemple, les spores Clostridium tetani, qui donne le tétanos, par exemple. C'est des spores qu'on trouve, par exemple, dans le sol. Et vous allez avoir, par exemple, si vous vous coupez, que vous avez une bactérie qui rentre dans votre blessure, eh bien, la spore peut germer, et puis tout d'un coup, vous avez une infection. Donc ça, on sait très bien qu'il faut se vacciner contre le tétanos, parce que, justement, il peut y avoir une bactérie qui va germer à l'intérieur.
Et tu disais ça à cause de la résistance des spores.
Et alors, les spores sont résistantes à beaucoup de choses. Alors, elles sont résistantes au stress, etc., mais sont résistantes aussi aux antibiotiques. Et alors, il y a une bactérie qui est résistante aux antibiotiques naturellement et qui forme des spores. C'est par exemple Clostridium difficile, qui est une bactérie qui est dans votre intestin, qui vit tout à fait gentiment, etc. Mais si elle se retrouve pratiquement toute seule, elle peut vous donner des diarrhées. C'est pour ça que quelquefois, vous prenez des antibiotiques, vous avez des diarrhées. Pourquoi? Parce que vous avez pris des antibiotiques parce que vous aviez des streptocoques dans la gorge. Eh bien, les antibiotiques, ils vont quand même tuer votre flore intestinale. Vous êtes d'accord? Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une bactérie, vous savez ce que c'est un antibiotique. Vous prenez un antibiotique parce que vous avez mal à la gorge, mais vous l'avalez et vous tuez quand même une grande partie des bactéries qui sont dans votre intestin. Eh bien, dans l'intestin, il y en a quand même des bactéries qui sont plus ou moins sensibles aux antibiotiques. Eh bien, vous allez avoir Clostridium difficile qui est dans votre intestin et qui va résister aux antibiotiques et qui va éventuellement vous donner une diarrhée. Donc, c'est un des problèmes de prendre des antibiotiques.
On est revenu au microbiote, finalement.
On revient au microbiote,
qui voilà. Qui est quand même quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé dans ton livre. J'ai appris pas mal de trucs. Alors, le microbiote, finalement, c'est une signature. C'est la signature.
Oui, parce que dans cette salle, vous n'avez pas le même microbiote que madame ou que madame. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est le microbiote? C'est un ensemble de bactéries toutes différentes et qui est un peu votre carte d'identité. Par exemple, vous avez beaucoup de firmicutes, vous avez un peu moins de telles bactéries, vous avez plus de... Bon, alors, vous allez dire d'où elles viennent, ces bactéries? Alors, elles viennent essentiellement de votre mère au début. Au moment de la naissance, les bactéries de votre maman arrivent dans votre intestin. Alors, vous allez dire, mais bon, je ne comprends rien. Je croyais que le placenta, tout ça, c'était très stérile. Peut-être qu'au moment, au moment de la gestation, tout ça, c'est très stérile. Mais au moment de l'accouchement, il se passe plein de choses. C'est-à-dire que, hop, le bébé avale un tout petit peu de bactéries. Il suffit de pas grand-chose. Mais très vite, la flore intestinale s'installe et vous avez votre microbiote qui est là. Et d'ailleurs, on le sait, ça. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, des enfants qui sont nés par césarienne ne vont pas avoir beaucoup de bactéries, à la limite, vont en avoir pas assez par rapport à des enfants qui sont nés par les voies normales. Bon, alors, donc, vous avez votre microbiote qui hérite de la mère, mais vous allez avoir, vous allez acquérir d'autres bactéries en mangeant, en étant en contact avec vos voisins, les frères et sœurs, etc. Et puis tout ça s'équilibre bien. Et dans les 2-3 premières années de votre vie, bah, ça y est, votre microbiote s'est bien installé. Il est adapté à vous. À vous, il est adapté à votre rythme de vie, etc. Et alors, à quoi en sont les recherches à l'heure actuelle sur les microbiotes ? Eh bien, elles en sont à, justement, essayer de comprendre tous ces microbiotes, tout ce qui se passe. Alors, il y a différentes choses qui sont faites. Il y a de voir quel est le devenir d'un microbiote pendant toute la vie. Bon, ben, on sait, par exemple, que le microbiote s'installe pendant les 2-3 premières années de la vie. Et puis, il est très riche, il est très diversifié. Un microbiote qui est très diversifié égale bonne santé. Donc, et on sait aussi que vers la fin de la vie, bah, il y a moins de diversification, il y a moins de diversité. Alors, si je vous dis que diversité égale bonne santé égale jeunesse, vers la fin de la vie, c'est moins diversifié. Donc, ça veut dire vieillesse égale moins diversifié. Donc, il faut essayer, pour rester jeune, de garder un microbiote qui soit diversifié. Ça veut dire qu'il faut le nourrir avec une alimentation diversifiée. Tout ça, c'est des choses qui, il y a 20-30 ans, étaient un tout petit peu pas comprises. Et maintenant, on le sait, c'est clair. Il faut avoir une alimentation diversifiée pour avoir une flore diversifiée qui est signe de bonne santé, premièrement. Après, il y a des études qui sont faites aussi pour essayer de corréler la flore avec, les caractéristiques de l'organisme qui abrite la flore. Et on sait que, par exemple, des personnes qui sont obèses ne vont pas avoir le même type de flore que des personnes qui sont extrêmement minces. Donc, on s'aperçoit que tout ça, c'est corrélé. Mais on a une période où on ne sait pas trop si c'est parce que les personnes sont très maigres, qu'elles ont tel type de flore, ou c'est parce qu'elles ont tel type de flore qu'elles sont maigres. Alors pour le moment, on en est au stade des corrélations. Mais on en est aussi au stade de se dire qu'on peut peut-être traiter presque avec des bactéries pour essayer de récupérer des choses. On pourrait dire, on essaie de... Il y a des expériences qui sont faites. Vous prenez des souris, par exemple. Parce que le souris, c'est le modèle animal pour les hommes. Ce sont des tout petits mammifères. Donc, voilà. Donc vous prenez des souris qu'on appelle des souris germe-free. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout de germes, elles n'ont pas du tout de bactéries. Elles n'ont jamais vu de bactéries. Donc, elles ont un intestin où il n'y a rien dedans. Non, ce n'est pas normal, mais on le fait parce qu'on peut faire des prélèvements d'embryons et puis on les fait pousser dans des atmosphères extrêmement stériles. Bon, on peut s'amuser à leur mettre de la flore d'un individu obèse et d'un individu maigre et on s'aperçoit que les souris grossissent et puis les souris sont maigres. Puis après, on refait le changement inverse et on s'aperçoit qu'on peut avoir le changement inverse. Donc, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus pour essayer de comprendre.
Tu parles même d'utilisation de transplantation fécale.
Oui, voilà. Donc, en fait, on s'aperçoit que la flore, c'est tellement important que si on a une flore qui n'est pas en bon état, peut-être qu'on pourrait la complémenter en faisant ce qu'on appelle de la transplantation fécale. Si, par exemple, vous devez être opéré, d'accord ? Imaginez, si vous êtes opéré, il y a de grandes chances qu'on va vous donner des antibiotiques au moment de l'opération pour se protéger d'infections secondaires, etc. Vous pouvez très bien imaginer de faire un petit prélèvement de votre propre flore. Hein ? Vous faites un petit prélèvement dans votre intestin. Et puis, vous avez l'opération, on vous traite aux antibiotiques, tout se passe bien, et hop, vous réavalez un tout petit peu de votre produit fécal, on va dire, et la flore se remet très, très vite. Et il faut, tout à l'heure, je vous parlais des enfants qui naissaient par voie césarienne par rapport à ce qu'on appelle les voies basses. Eh bien, il y a des gens qui font des transplantations fécales pour rééquilibrer la flore des bébés nouveau-nés qui ne sont pas en assez bonne santé, etc. Donc, la transplantation fécale existe, elle est faite à l'heure actuelle. Ou éventuellement, si vous avez des gens qui ont des grandes diarrhées, etc., pour rétablir la flore, on peut donner des... Bon, alors, de là à faire des transplantations fécales, disons, c'est un cas un petit peu extrême. Mais un cas un tout petit peu moins extrême, c'est de prendre ce qu'on appelle des probiotiques. Vous avez certainement entendu parler des probiotiques. Les probiotiques, c'est quoi ? Ce sont des bactéries qui sont capables, quand vous les mangez, de rester dans votre intestin. Ce n'est pas des bactéries qui vont partir. Elles sont capables de s'intégrer. Et elles sont éventuellement bonnes pour votre intestin. Eh bien, si vous buvez du Actimel, il y a ce qu'on appelle Lactobacillus casei qui est là-dedans. Et en principe, c'est une bactérie qui vous fait du bien. Alors, je vais aborder pourquoi ces bactéries sont importantes pour vous. Vous avez une flore intestinale. Quand vous étiez en CM2 ou en 8e, bref, vous avez appris que vous digérez des aliments, vous les mâchez, les aliments deviennent ultis, ils arrivent dans votre intestin, dans votre estomac, ils arrivent dans l'intestin, et la fin de la digestion est faite dans l'intestin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la fin de la digestion ? Eh bien, ça veut dire que les bactéries prennent en charge les aliments qui arrivent là. Ils vont les réduire à leur plus simple expression. Et ensuite, les produits des aliments vont passer à travers la barrière intestinale et vont vous nourrir. Vous allez vous faire des vitamines, etc. Donc tout ça, ça vous nourrit. Bon, ça, c'est bien. Mais la flore intestinale, maintenant, on le sait, elle ne fait pas que ça. Premièrement, elle peut protéger de l'arrivée d'une bactérie qui serait méchante. C'est-à-dire, si vous avez une flore intestinale qui est costaud, hein, qui est en bonne santé, qui est bien diversifiée, un microbe pathogène qui arrive, mettons une listeria, vous avez des bactéries qui sont dans votre flore intestinale, qui vous protègent toutes vos cellules, qui sont à l'endroit, vous savez, vous avez des villosités comme ça, c'est plein de votre flore intestinale. Donc la bactérie qui arrive là, non, tu rentres pas, il y a la flore intestinale. Donc une flore intestinale qui est en bonne santé peut empêcher les pathogènes de rentrer. Donc ça c'est une des choses. Mais aussi la flore intestinale, elle stimule votre système immunitaire. C'est-à-dire que toutes ces villosités qui sont dans l'intestin, elles résistent à tout ce qui pourra arriver, parce qu'il arrive quand même beaucoup de choses dans votre intestin. Donc elles stimulent votre système immunitaire, pas trop, à bas bruit. Et ce qui fait que vous avez un système immunitaire qui pourrait résister, par exemple, s'il arrive, Vibrio choléré, tout le monde n'est pas complètement à attraper toutes les maladies qui passent, quoi. Donc, si vous êtes en bonne santé, votre flore intestinale, elle lutte contre ça. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que la flore intestinale, toutes ces bactéries qui sont là, elles peuvent aussi produire des choses qui vont jusqu'au cerveau. Et soit ça va jusqu'au cerveau par, la voie sanguine, soit carrément il y a des nerfs qui sont dans votre intestin pas très loin et ça peut éventuellement affecter sur les nerfs et donc arriver jusqu'au cerveau. Et on parle maintenant de l'axe intestin-cerveau parce qu'on sait très bien que tout ce qui se passe là a un effet sur tout ce qui se passe là et sur votre humeur, etc. Il y a un lien entre le cerveau et l'intestin qui est absolument clair et net. Et donc, on se dit qu'on pourrait éventuellement, à l'avenir, jouer sur justement tout l'équilibre pour guérir, par exemple, des maladies telles que l'anxiété ou des maladies un tout petit peu psychiques, on va dire. Donc ça, c'est ce que va nous amener toutes les recherches qui sont à l'heure actuelle.
Le temps passe. Est-ce que tu veux parler de la symbiose ?
Oui. Oui, oui.
Lustique, Wolbachia.
Oui. Juste avant de parler de ça, parce que la symbiose, c'est presque ça, je vais vous raconter une histoire drôle, parce que chaque fois que je la raconte, les gens aiment beaucoup. Je vous disais que les bactéries, elles agissent en assemblée. Elles se promènent, elles font des assemblées de bactéries qui peuvent éventuellement faire des biofilms. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bactéries, elles se parlent. Elles communiquent entre elles. Elle s'envoie des signaux. Et les signaux, ce n'est pas du bruit, c'est des molécules chimiques. Une bactérie qui est ici et une bactérie qui est là, elles peuvent s'envoyer des signaux chimiques, petites molécules compliquées. Alors, comment elles les reçoivent ? Bien, sur leur surface, elles peuvent avoir un récepteur qui fait que la molécule chimique arrive là. Et puis, le récepteur bouge, vibre, par exemple, et fait que la bactérie, elle a reçu le signal. Alors, vous allez dire, à quoi ça sert ? Bon, bah, imaginez que vous avez toutes vos bactéries qui sont dans un endroit donné. D'accord ? Une bactérie qui est là envoie un signal. La bactérie qui est là lui envoie un signal. Elle se multiplie en même temps. Donc finalement, à la fin, on va avoir beaucoup de signaux. Et qu'est-ce qu'elles vont dire, les bactéries ? Ah, mais on est beaucoup. On était deux au début, nous sommes beaucoup. Elles arrivent à évaluer leur quantité à cause de tous ces signaux. Et quelquefois, elles se disent, ben, il y a tellement de signaux, on est nombreuses, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et elles agissent ensemble. Elles agissent ensemble, qu'est-ce qu'elles font ? Elles partent se promener ensemble ou quoi ? Eh bien, elles peuvent faire, soit elles décident de faire de la lumière ensemble, soit elles décident de produire une toxine ensemble et d'attaquer. Par exemple, les staphylocoques, ils ne vont pas vous attaquer s'il y a une seule bactérie. Ils attendent d'être beaucoup pour attaquer. Mais il y a des bactéries qui sont, quand elles sont nombreuses, elles font de la lumière. Alors, je vous raconte l'histoire du calamar. Alors, c'est l'histoire d'un calamar qui habite dans le sable, dans le Pacifique, mettons, au large de la Californie ou au large d'Hawaï. D'accord ? Donc, comme tous les calamars de la Terre, il vit dans le sable. Pas plus grand que ça, ce calamar-là. Je raconte dans mon bouquin. Donc, le calamar, ben, il a besoin de manger. Donc, quand la nuit arrive, puisque c'est un calamar qui vit la nuit, il va se promener dans l'océan et il va chercher les crevettes. D'accord ? Mais dans l'océan, il y a des organismes qui aiment bien les calamars. Donc, la calamar devient la proie pour, par exemple, je ne sais pas, des poissons qui aiment bien les calamars. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand le calamar part chasser, c'est la nuit. La lune éclaire le calamar. Le calamar a une ombre portée sur le sable. Et donc, les proies, elles se promènent et elles essaient de repérer le calamar. Et elles voient qu'il y a une ombre par terre. Elles vont dire, oh, ça y est, il y a le calamar, je vais le chercher, je le mange. Mais en fait, le calamar, il est protégé des proies par des bactéries qui sont dans une petite poche. Donc le calamar, il est là, et il a une petite poche dans laquelle il y a des bactéries qui s'appellent Vibrio fischeri. Donc dans cette petite poche, les Vibrio fischeri se multiplient et elles font de la lumière quand elles sont en suffisamment en grande quantité. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le calamar qui nage, et en fait c'est comme s'il avait un phare. Et le phare éclaire le sol, ce qui fait que la lune a beau être là, de toute façon, le calamar se promène et il n'y a pas d'ombre portée. Donc, en gros, vous avez des bactéries qui sont dans une poche, qui font de la lumière, qui protègent le calamar des proies, des poissons qui voudraient le manger. Bon, mais à la fin de la nuit, qu'est-ce qu'il fait le calamar ? Il est fatigué, il est repu, il a mangé toutes ses crevettes. Il crache toutes les bactéries et il repart dans le sable. Il repart dans le sable pour toute la journée, qui est sa nuit, en fait. D'accord ? Et donc là, dans sa petite poche, vous avez les bactéries qui vont se mettre à se remultiplier. Et puis, au moment où il y en aura suffisamment, eh bien, ce sera la fin de la journée, donc le début de la nuit pour le calamar, et il repart pour un autre cycle comme ça. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que tous ces Vibrio, ils se parlent entre eux. S'ils sont tout seuls, ils ne font pas de lumière, mais s'ils sont beaucoup, ils font de la lumière. Voilà, ça c'était un exemple de symbiose que je trouve assez extraordinaire, surtout que ce Vibrio cholerae, ce Vibrio fischeri, il agit aussi sur ce qu'on appelle le rythme circadien. Vous avez des tas de réactions dans votre corps qui se font toutes les 24 heures, en fait. Donc, vous êtes réglé comme ça, vous allez répéter exactement. Demain soir, vous viendrez peut-être écouter quelqu'un ici. Non, ça, c'est une blague. Mais vous répétez la même chose toutes les 24 heures. Donc, on sait que Vibrio fischeri est capable d'affecter le rythme circadien du petit calamar.
On va remercier Pascal pour sa conférence, ses réponses et son livre que moi, j'ai trouvé personnellement passionnant.
Merci.
Merci. Merci.